Radio Éthique vous présente l'éco-radio d'EcoSapiens, le guide d'achat éthique. Moi, la question que je voulais vous poser aujourd'hui, Baptiste, on se pose plein de problèmes et de questions sur l'alimentation et sur donc notre hygiène alimentaire. On aimerait consommer de bons produits, mais on a du mal à s'y retrouver, nous consommateurs. Je crois que vous avez mis au point un ouvrage qui répond à toutes nos questions.
On avait publié un petit guide qu'on actualise tous les ans qui s'appelle « Les bons labels et les truands », un petit clin d'œil au film, et qui en fait est une sorte de petit panorama synthétique sur les différents labels qu'on peut retrouver dans tous les produits alimentaires ou pas. Vous me direz que des présentations des labels, on en trouve un petit peu partout. La spécificité de notre petit feuillet, c'est que non seulement il présente les labels de manière très synthétique, mais en plus, on va dire, il prend position, c'est-à-dire qu'il les a classés. C'est-à-dire que, comme son titre l'indique, il y a les bons labels, il y a les bof labels, il y a les labels top, et puis il y a les labels un peu tendancieux, on va dire.
Alors, en 3 minutes, Baptiste, qu'est-ce qu'on peut dire? On va faire du positif, on aime bien sur Radio Éthique. Alors, les très bons labels, les meilleurs.
Alors souvent, on s'aperçoit que les très bons labels, quand on monte le guide, les gens ne les connaissent pas. Pour une raison simple, c'est que les très bons labels sont souvent des émanations, des initiatives associatives, de petites structures. Pour faire simple, le plus connu parmi ces labels, on va dire top, c'est le label Nature et Progrès, qui, on va rappeler, qui est un petit peu à l'origine de la charte de l'agriculture biologique en France, et qui va au-delà du cahier des charges label AB qu'on connaît tous, et qui en plus prend en compte des facteurs sociaux. Voilà. Il y a un autre label qu'on retrouve assez souvent qui fait partie des tops, c'est le label Demeter, qu'on trouve essentiellement dans le vin. Donc à la fois c'est du vin qui est bio, voire plus c'est du vin qui est biodynamique. Puis il y a aussi le nouveau label promu par EcoCert, qui s'appelle Équitable EcoCert, ou label ESR aussi, qui lui pareil était au départ sur une certification équitable seulement, et depuis 6 mois là c'est plus haut, tous les produits labellisés EcoCert donc, sont donc équitables, et en plus ont l'obligation d'être bio. Donc c'est une double garantie sur des facteurs sociaux environnementaux.
Le label AB, en fait, il a disparu, il a été repris par ce label dont vous venez de parler.
Alors pas tout à fait, c'est-à-dire que EcoCert, il faudrait faire aussi une émission sur EcoCert, qui est une société qui non seulement certifie, mais en plus a créé ses propres labels. Donc là, on parlait vraiment de ESR, qui était une initiative propre à EcoCert, hein, qui visait, pour faire simple, à avoir un deuxième label à côté de Max Havelaar sur l'équitable. Sauf qu'EcoCert, puisque l'accord de métier c'était aussi la certification bio, on dit dans le nouveau label équitable qu'on promeut, il y aura de toute façon une obligation d'être bio. Par rapport au label bio que tout le monde connaît, le label AB, qui aujourd'hui effectivement est équivalent à son standard label bio européen, une espèce de petite feuille avec des étoiles. Hein, Souvent maintenant sur les produits on voit les deux parce qu'il ne faut pas perturber le consommateur, il faut que tout le monde connaît le label AB. Peu de personnes connaissent déjà le label européen. Ils sont en tout point similaires, hein. C'est juste une harmonisation européenne. Sachant que dans cette harmonisation de tous les pays membres sur ce label bio européen, le label AB a un petit peu perdu en exigence, pas beaucoup, hein, mais il a un petit peu perdu. Donc du coup, ceux qui étaient AB et qui ne voulaient pas s'aligner sur le label européen ont initié leur propre label qui s'appelle Biocohérence, voilà, qui en fait est équivalent au précédent label AB.
Est-ce que toute la multiplication de ces labels, ça ne nuit pas à la simplification, à la transparence pour le consommateur?
Alors, c'est une question qui revient très souvent. C'est vrai que nous, quand on voit le petit guide qu'on a fait, déjà, on en a sélectionné certains, on ne les a pas tous mis, et on est effectivement sidéré de voir qu'il y a autant de labels. Surtout qu'il y a des labels où ça se recoupe complètement. Là, on a pris l'exemple de la bio. La bio, finalement, il pourrait y avoir que 2 labels, c'est-à-dire typiquement une agriculture bio de pointe, Nature et Progrès Demeter, et puis une agriculture bio, on va dire, qui correspond plus à certains standards, pour faire simple, des grandes surfaces. Dans la cosmétique, ces processus d'harmonisation ont déjà eu lieu. C'est-à-dire qu'on a un gros label allemand qui s'appelle BDIH et un gros label français qui s'appelle Cosme Bio. Les deux vont se fondre dans un processus Cosmos qui va être ce qu'on appelle NatPro, avec un système de 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Donc voilà, finalement le même label décliné selon plusieurs exigences. Et ça, on aime beaucoup parce qu'on pense que c'est lisible. C'est-à-dire qu'il y a le tampon, les gens connaissent, et après 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, voilà.
Pour notre code de valeur, c'est facile. Pour nous, consommateurs, on comprend vraiment mieux. Après, donc on passe à des exigences un peu moindres avec les autres labels?
Alors là, après, chaque secteur est un peu caractéristique. On a voulu aussi montrer ces labels en disant que tous les domaines étaient touchés. Tout le monde connaît par exemple le label pour le bois FSC et puis son petit frère PEFC. Mm-hmm. Donc nous, on a expliqué rapidement que le label PEFC nous semblait moins exigeant que le label FSC. Ça va être pareil, on va dire, pour tout ce qui est produits d'entretien. Tout le monde connaît l'écolabel européen, la petite fleur. Voilà, et quand on regarde ses exigences, elles sont un petit peu plus faibles que celles d'un standard qui s'appelle EcoCert. Alors, heureusement, c'est le même nom que la structure, c'est fait exprès. Donc voilà, toujours pareil, on a un peu, dès qu'une catégorie de produits apparaît, on va dire qu'il y a des gens en pointe qui essaient de faire un standard assez rigoureux, et puis derrière, bah, parce qu'il faut harmoniser selon tous les pays, et puis qu'il y a les grandes surfaces qui ne peuvent pas non plus mettre des produits très innovants, on a des labels un peu plus soft.
Alors, pour faire très court, est-ce qu'il y a des labels à éviter absolument?
On va avoir du mal ici à Vinted à dénoncer des labels. Non, un petit point quand même, enfin, on a beau le répéter, mais je crois que chaque année, il y a des études, on va dire, de sondages qui sont effectués pour montrer que le point vert, hein, le petit logo
Oui.
de éco-emballage, on a beau le répéter, dire que ça ne veut pas dire que c'est recyclé ni recyclable, ça veut juste dire que l'entreprise est obligée de payer une cotisation parce qu'elle produit un emballage, que cette cotisation va dans un organisme qui s'appelle éco-emballage, qui est censé militer et pour le tri sélectif et voilà, et les réductions d'emballage en général. Rappelez, hein, ce petit label, hein, petit yin et yang des flèches, lui, ne signifie pas grand-chose, c'est une obligation légale. Voilà. Et beaucoup de gens, même après ces 10 années d'explication, pensent encore que ça veut dire recycler, recyclable. Alors après, on peut se poser effectivement la question, pourquoi est-ce qu'il y a des labels? Que ce serait pas plus simple que chaque entreprise explique de manière transparente ce qu'elle fait? Nous, on a tendance à dire à EcoSapiens, enfin, face au fait qu'effectivement les labels sont de plus en plus nombreux, qu'on s'y perd, face aussi à la demande des producteurs qui disent que des fois certifier ça peut coûter cher. Typiquement dans la bio, des petites exploitations, bah, préfèrent ne pas mettre de labels et puis bah, jouer sur, enfin, on va dire, une espèce de zone grise en disant bah oui, on est bio, mais on n'a pas le label. Nous, on est tout à fait partisans du fait qu'on peut très bien être bio et ne pas avoir de label, il n'y a pas de problème. On pense que les labels existent et sont très nombreux aujourd'hui. Parce que 90% des gens font leurs courses en grande surface, un endroit où de toute façon personne ne peut vous raconter l'histoire du produit que vous achetez. Concrètement, la caissière de Carrefour ne peut pas vous dire dans quelles conditions environnementales et sociales a été produit ce qu'elle vous passe sur le tapis roulant. Or, donc le label sert à ça, il sert à raconter, à résumer une histoire très rapidement, alors que on peut imaginer que sur des lieux de commerce plus standard, des marchés, des AMAP. Là, le producteur, s'il est présent, il peut vous raconter l'histoire. Après, on fait confiance, on ne fait pas confiance. C'est ce qu'on appelle un peu les systèmes garantis participatifs qui permettent finalement de relier directement consommateur et producteur. Et là, du coup, puisqu'il y a un discours, un dialogue, il n'y a plus besoin d'affichage et de label.
Comment peut-on se procurer votre guide, Les bons labels et le truand?
Alors, le guide est disponible sur notre site. Hein, on le trouvera rapidement sur les fiches labels d'EcoSapiens. Il y a un format PDF qui se veut un peu poster, un autre format qui se veut pliable en ligne. Hein, ça tient dans la poche. On peut le trouver aussi en allant à différents salons, puisqu'il est distribué gratuitement dans pas mal de salons qui traitent d'écologie, que ça soit la foire bio de Rouffach ou en Alsace, ou alors le fameux salon Prime Vert à Lyon. Voilà, on a des partenariats avec les salons pour diffuser et mettre à jour ce petit guide, les bons labels et les truands.
Vous venez d'écouter l'éco-radio d'EcoSapiens. Retrouvez le guide d'achat éthique en ligne sur www.eco-sapiens.com.